Bienvenue à bord. Alors j'ai vraiment le plaisir de recevoir un écrivain que j'ai déjà reçu plusieurs fois et qui se nomme Philippe B. Grimbert. Et ça, mon cher Philippe B. Grimbert, à chaque fois je vous le redemande, pourquoi ce B ?
Pourquoi ce B ? Ben parce que malheureusement la place était prise, alors voilà, j'aurais pu faire Victor Hugo, mais finalement j'ai gardé mon nom, mais il y a un Philippe Grimbert qui commet également, enfin qui se commet dans l'écriture aussi. Et donc, comme on se connaît, parce que figurez-vous que le plus grand des hasards nous avait mis sur le même palier pendant des années. Oui, vous imaginez pas pour à quel point c'est source de confusion, ce d'autant plus que ce Philippe Grimbert, écrivain, est également psychanalyste, et que donc je recevais dans ma boîte aux lettres des chèques à mon nom qui lui étaient adressés. Il me suffisait de les encaisser. Et c'est comme ça que nous avons fait connaissance. Et je lui ai promis que si un jour je me mettais à écrire, je trouverais un signe distinctif pour qu'il n'y ait pas de confusion.
Et le B, c'est ?
Et le B, c'est mon deuxième prénom, Bernard. Voilà.
Bernard, voilà. Alors, vous avez déjà publié 5 livres aux éditions du Dilettante, qui est une excellente maison d'édition. J'ai dû vous recevoir à peu près pour chacun, je crois. Il y en a un, d'ailleurs, où on était tout tellement d'accord, vous êtes contre les éoliennes. Et là, vous publiez l'attaché et de presse, c'est-à-dire il s'agit bien d'une personne féminine. Et je voudrais d'abord vous faire un compliment. Jusqu'à présent, je vous recevais parce que vous étiez un écrivain qui écrivait bien. Et maintenant, je peux vous dire que tout simplement, c'est écrit. Il y a eu un changement qualitatif dans votre dernier livre. Je trouve que vous avez... c'est ça, le changement qualitatif, c'est au-dessus de ce que vous faisiez avant, qui était déjà en excellent français et tout. Alors, bravo, quoi.
Merci, cher Alain, je suis très touché.
C'est une histoire d'amour au temps des smartphones. Mais dès le début, là, vous renouvelez un peu l'opposition entre Proust et Sainte-Beuve. Vous allez quand même pas me dire que vous avez un point de vue sur l'un ou sur l'autre.
Absolument pas. Mais puisque vous faites référence au grand Marcel, peut-être le titre, en l'occurrence, est une référence. Vous savez, il y a, j'imagine que vous connaissez bien La Recherche du Temps Perdu, mais il y a un volume de La Recherche qui s'appelle La Prisonnière. Et j'ai toujours trouvé particulièrement gonflé que Proust, dans lequel... tout le volume est consacré à son aliénation, à sa dépendance, à son assujettissement au personnage d'Albertine, se traduisent par le fait qu'il ose écrire ce roman, donner à ce roman le titre de La Prisonnière. Et je me suis toujours dit, c'est un tour de force remarquable, parce que s'il y a quelqu'un qui est prisonnier dans cette histoire, qui est prisonnier de cette histoire, c'est-à-dire qui vit dans dans l'enfermement de son abandon, de sa dérédiction, c'est bien lui. Et appeler ce livre La Prisonnière, pour le simple fait qu'à un moment donné, en effet, il l'enferme très vaguement dans son appartement et qu'il la fait vaguement surveiller par sa gouvernante Gilberte, toute l'écriture de ce roman n'est qu'une traduction de sa dépendance et de son statut de prisonnier ou d'aliéné. Alors voilà, il y avait dans le terme « l'attaché de presse » un clin d'œil à ce volume magnifique, donc qui est pour moi peut-être en tout cas l'un des volumes de La Recherche qui m'a le plus touché, l'idée de revenir à ce titre pour inverser l'ordre des attachés ou l'ordre des prisonniers.
Voilà. Oui, mais c'est lui la prisonnière, en
absolument.
Fait.
Alors, je ne suis pas certain qu'il ait poussé l'humour jusqu'à s'attribuer ce qualificatif féminin.
Alors, dites-moi, cher Philippe B. Grimbert, vous êtes, dès le début, il y a un petit peu d'érotisme qui apparaît dans votre roman. Il y en a pas mal qui courent, sans d'ailleurs aller trop loin, mais on sent que là, il y a une passion pour la femme, qui est beaucoup mieux que pour les femmes, d'ailleurs.
Absolument.
Guitry et Léoto disaient « je n'aime pas les femmes, j'aime la femme ». Et alors, page 36-37, là vous allez un petit peu fort quand même, vous dites « au blue jean moulant de Marilyn, aux cuissardes de Bardot, à l'entrecuisse de Sharon Stone, je préférais le chandail gris, le pullover bouteille, l'imperméable beige, l'uniforme provincial de Nathalie Baye ». Là, faut vous expliquer.
Écoutez, alors là, puisqu'on est dans les explications, je vais vous en donner une. Un jour, vous le savez, on a voulu imposer à Hitchcock Marilyn Monroe, je crois que c'était pour la Taverne de la Jamaïque. Les producteurs lui ont dit Marilyn Monroe est une star.
Non, ça m'étonnerait, c'est en 39 la Taverne de la Jamaïque.
Alors c'est pas pour la Taverne de la Jamaïque, c'est un film... C'est, me demande si c'est
pour les oiseaux, non ?
Non, peut-être pour le Rideau des Chiens. Enfin bref, je ne sais plus. Vous avez raison, c'est pas la Taverne de la Jamaïque. Et Hitchcock a répondu cette phrase absolument magnifique. Il a dit, écoutez, Marilyn Monroe est peut-être une très bonne actrice, mais je ne veux pas d'une femme qui ait son sexe sur son visage.
Voilà. Oui.
Et alors, vous comprenez là les choix des héroïnes hitchcockiennes, qui sont en effet des femmes très belles, les Tippi Hedren, les Grace Kelly, et consorts, qui sont ces grands archétypes de femmes, en effet, qui n'ont pas leur sexe sur leur visage. C'est vrai, elles ont une forme de voilà, l'érotisme, en tout cas, ou la sensualité n'est pas ce qui saute aux yeux. Et moi, j'ai toujours été frappé par cette phrase d'Hitchcock, qui laissait penser que peut-être il y avait, quand quelque chose se montrait ou s'exhibait trop dans l'érotisme ou la sensualité d'une femme, quelque chose qui la désérotisait. Et l'anecdote de Nathalie Baye est une sorte de référence à cette idée-là, car qu'est-ce qu'il y a de moins érotique ou de moins érogène que Nathalie Baye, qui est tout en discrétion, en moyenneté, peut-être l'illustration même de la petite bourgeoise dans tout ce qu'elle peut avoir de plus banal, de plus... et qui se révèle à la lumière du travail du metteur en scène, à la lumière de l'éclairage qui en est fait, personnage d'un fol érotisme et qui peut susciter un désir absolument...
Et très bonne comédienne.
Et de surquoi une très bonne comédienne. Et donc c'est ce que le personnage signifie quand il dit, et puis évidemment, je me sers de cette histoire pour introduire le personnage central du livre qui est l'attaché de presse, ou ce qui, paradoxalement, ce qui saute aux yeux du narrateur, ça n'est pas son éclat, ça n'est pas son érotisme, ça n'est pas son sex appeal, mais c'est sa neutralité, c'est sa banalité, et donc c'est quelque chose comme si finalement ce qui l'érotisait, c'était ça, c'était cette transparence, c'était cette vacuité, c'était cette invisibilité qu'elle porte.
Alors, vous savez d'ailleurs magnifiquement décrire comment dirais-je, l'architecture d'un baiser sur la bouche avec la fameuse Charlène. Alors, je lis, hein, parce que « L'obligeante a relevé la tête tandis que je cherchais de la pointe de ma langue un passage à entr'ouvrir entre ses lèvres contre l'enclos de ses incisives, espace fortifié dont je pénétrais l'enceinte sans résistance avant de heurter la langue de Charlène pour les premières touches d'un duel entre nos extrémités spongieuses au cours duquel la sienne demeurait immobile comme un membre infirme. » Voilà. Ouais. Ça, c'est de l'écriture. Vous voyez déjà la phrase longue, qui a une cadence. Hein,
c'est... Ouais. Ouais, oui,
vous avez dû pratiquer ça beaucoup et peut-être d'autres choses aussi, d'ailleurs. Enfin, bon,
qui n'a pas pratiqué l'intensité et l'émoi du premier baiser, hein. On dit même que c'est une... D'ailleurs, c'est comme ça que c'est écrit. C'est une frontière, le premier baiser. Hein. C'est une frontière dans les gestes, dans les relations, dans les rapports. Il y a l'avant et l'après. C'est comme un territoire que l'on franchit après ce premier baiser. Il y a l'émoi, l'inquiétude, va-t-il m'être accordé ou refusé? Et s'il m'est accordé ou si j'y ai accès d'une certaine manière dans cette conquête, eh bien, c'est en effet tout un territoire relationnel qui s'ouvre. Et c'est pour ça que cet instant est un instant extrêmement précieux, presque miraculeux.
Alors, vos personnages, Charlène et le personnage, utilisent ce qu'on appelle en bon français le day use, c'est-à-dire ils vont ensemble l'après-midi dans un hôtel. D'ailleurs, ce sont tous les mêmes, hein, que vous ayez.
Absolument.
Voilà, c'est des tours. Celle dont vous parlez, c'est vers la rue du Commandant Mouchotte, je suppose.
Oui, c'est ça, oui. Mais voilà. Ça pourrait être tous ces hôtels à peu près standardisés.
Je ne veux pas en savoir plus.
Non, mais en fait, quand vous en connaissez un, vous les connaissez tous. Hein.
Vous avez raison.
Ce sont des hôtels à l'organisation très homogène. Et d'ailleurs, qui fait écho aussi à la relation, à la dimension même du désir, qui a quelque chose d'assez mécanique et d'assez standardisé à l'intérieur de cette relation.
Ah oui, mais vous dites « des je t'aime, il y en eut par milliers, de toutes les sortes, hasardeux, sentencieux, secs, humides, paresseux, fébriles, exigeants, érectiles, plaintifs, suppliants, moins pour dire que pour vérifier ». authentifier un cadre imprécis, un état volatile, s'érodant sur nos écrans à mesure qu'il proliférait.
Oui.
Mais on va s'apercevoir, ça c'est bien dit et tout, oui. Mais on va savoir, assez vite d'ailleurs, on s'aperçoit en fait, c'est sur un livre sur la numérisation de l'amour, parce qu'on peut plus passer des, appelez ça comme vous voulez, des portables, des portatifs.
Bien
on disait des cellulaires autrefois.
Oui, absolument.
C'est une façon d'enfermer les gens.
Ben oui, Roland Barthes écrivait le discours amoureux, les fragments du discours amoureux il y a quelques années, à l'époque même où ces supports numériques n'existaient pas. Je me suis toujours demandé ce que deviendrait ce texte à l'heure d'aujourd'hui, où on est en permanence dans l'injonction à l'immédiateté. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une sorte de réponse et de relance absolument permanente. Sinon, on est mis en défaut de quelque chose. On est, vous savez, c'est la bovarisation du portable qui vous met en situation de très grande frustration.
Ah, ça, c'est joli. Mais expliquez-le moi un peu, parce que c'est une très belle phrase.
Oui, Bovary, c'est le prototype même de l'attente déçue, de l'espoir et du processus sans cesse renouvelé pour cette femme.
Et de l'idiotie aussi.
Et de l'idiotie aussi. Et il y a quelque chose de cet engin qui vient au service de cette... Bovary, c'est nous tous, dans notre petite et notre voilà.
Soyez poli avec moi.
C'est Flaubert qui le disait. Bovary, c'est moi. Hein, donc si je laisse parler la Bovary qui est en moi dans cette espèce de futilité un peu imbécile, surtout en ce qui concerne les amourettes, le portable lui donne une dimension qui vient réactiver par cette espèce d'injonction à l'échange permanent et perpétuel où il n'y a rien à se dire, simplement faire fonctionner le processus par lui-même. Je t'écris, tu me réponds. Je t'envoie un signe, tu me renvoies un signe. Et si je ne le fais pas, c'est la paranoïa du moi immédiatement qui se met en exergue. Je n'ai pas de réponse. C'est le fading amoureux dont parle Barthes. Sauf que là, il est permanent et il s'évide petit à petit de toute matière ou de toute substance. Il n'est plus qu'au service de l'appareil lui-même. Comme si c'était l'engin ou l'appareil qui gouvernait la relation et non plus l'inverse. Et qu'il fallait le nourrir comme le ventre d'une sorte de machine infernale.
Ou de Moloch.
De Moloch, hein, qui donnait le ton, le « là », à la nature même de la relation affective.
Alors d'ailleurs, vous le dites très bien, vous dites qu'elle était, Charlène, elle était depuis toujours reliée par l'ombilic au cordon de son smartphone.
Eh oui,
et vous, même dans un amour, on n'arrive pas à couper l'ombilic.
Absolument, Alors, et puis, évidemment, c'est un rapport à soi qui est un rapport permanent, c'est-à-dire que cette dimension même très narcissique de la relation amoureuse, qui est... Voilà, l'une des composantes de ce lien, avec l'usage que l'on fait de cette interface, renforce absolument considérablement à la fois le rapport à soi et également sa mise en danger. Donc oui, il y a quelque chose de très ombilical, comme une sorte d'excroissance du corps de cette femme, puisque cet homme est finalement moins introduit qu'elle ne l'est à ses engins ou à leur place qu'ils tiennent à l'intérieur de la relation amoureuse. Il a à un moment donné le sentiment que ce téléphone portable, c'est presque quelque chose qui fait partie de son corps avec lequel il interagit, et il se demande même si son doigt n'est pas une zone érogène, la pulpe du doigt avec lequel elle tape ses SMS et qu'elle envoie ses messages avec une folle dextérité, n'est pas en soi devenu un lieu érotique propre qui participe de l'échange amoureux. Et il en est absolument fasciné. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'il rentre à l'intérieur de ce lien par ce prisme-là, par ce biais-là, et il découvre cette addiction de l'extérieur, parce qu'il n'y est pas, d'une certaine manière, initié à la phase première de cette relation amoureuse.
Mais alors, il n'y a pas que ça à laquelle elle est dépendante, il y a la couleur verte. C'est-à-dire, il décide de partir en vacande, je le prononce à la française, mais elle dit, il me faut du vert.
Le vert,
est-ce que c'est une relation à l'écologie? Tout simplement, il faut du vert, du vert, du vert.
Oui, alors il y a, vous savez, la relation. Ils ont une relation tout de même qui est assez monotone, assez stéréotypée. Ce couple se retrouve une fois par semaine dans un appartement ou dans un hôtel. Ils ont une relation qui ressemblerait un peu, pour des gens qui aiment le cinéma comme vous, à ce film qui s'appelle Le Dernier Tango à Paris, où on a l'impression que l'échange répond à un cadre, à un horaire extrêmement précis, et qu'il est contenu à l'intérieur de cet espace-temps, et que d'une certaine manière, il n'a pas à en sortir, et que s'il en sort, ça risque de faire éclater la relation, parce que l'un et l'autre se trouveraient privés de repères, de ce qui constitue un peu la caverne de leur relation. Et là, brutalement, ce couple se retrouve exposé à un week-end où ils ont la possibilité de partir 3 jours ensemble, comme vous le dites, à la campagne, au vert. Alors, le personnage, le narrateur, est extrêmement inquiet parce qu'il se demande ce qu'il va faire de cet excès de Charlène pendant 3 jours entiers, ou à l'intérieur même de la relation qu'ils ont construite, ben finalement, les choses se sont mises en place dans un espace très limité, un lieu, un espace-temps, à l'intérieur duquel se déroule et se reproduit une relation qui est à peu près toujours la même. Et là, cette maison, la campagne, la verdure, et donc il découvre cette femme qui, tout d'un coup, lui avoue son intérêt pour les fleurs. Elle lui fait part du fait qu'elle aurait aimé être fleuriste. Elle a un logiciel également qui lui permet de retrouver le nom des fleurs, et elle passe quelques heures à rechercher le nom des fleurs. Bref, tout d'un coup, il l'aperçoit végétale, il l'aperçoit comme une espèce florale, et avec cette vision qu'il a d'elle, d'une certaine manière, il continue un peu à l'anonymiser à travers cette nouvelle représentation, cette fois-ci, qui est plus végétale qu'elle ne l'était auparavant.
Alors, mais vous savez que le vert n'est pas très bien vu en peinture en général.
C'est vrai.
Par exemple, Georges Mathieu détestait le vert.
Oui, absolument.
Bon, mais alors, je suis obligé de faire une petite digression parce que ça m'intéresse personnellement.
Oui.
Vous l'emmenez à côté de Tonnerre.
Ouais.
Vous connaissez Tonnerre ?
Très bien.
C'est une ville morte.
C'est une ville morte. Mais d'ailleurs, il en parle.
Oui.
C'est la ville qui n'a plus cessé. Ça fait partie de ces villes de province totalement déshabitées, évidées, qui ne sont remplies un peu le week-end, d'ailleurs, comme il le découvre, que par les quelques résidences secondaires avoisinantes qui viennent s'animer autour de quelques marchés paysans plus ou moins artificiels. Mais allez à Tonnerre le jour de la semaine, vous avez des commerces vides, vous avez des rues vides, et c'est en effet ce qui arrive à peu près aux 2/3 du paysage français, hein, c'est-à-dire leur néantisation programmée au service d'une autre vision et d'une autre représentation de la géographie française, absolument.
Je crois que vous en parliez dans un précédent roman.
Oui, bien sûr, c'était
le
sujet.
Parce que là, ça se passe dans le Morvan.
Ça se passait dans le Morvan,
vous connaissez bien
absolument.
Le Morvan. Vous,
je connais bien la Bourgogne, que j'apprécie beaucoup.
Oui.
Et je vois, comme tout le monde, qui s'intéresse à des paysages.
Dans le Morvan, pas très loin d'Avalon, d'ailleurs.
Absolument, près de Carré-les-Tombes.
Il y a des éoliennes. On appelle ça des éoliennes.
Bah, il suffit de prendre l'autoroute Assis. Entre Paris et Avalon, pour voir ce qu'on a fait, en effet, des panoramas, des espaces qui sont intégralement recouverts de champs éoliens et qui ont en effet totalement modifié, bouleversé les paysages et la géographie, non seulement la journée, mais la nuit, un crépuscule, un soir d'été où les lumières rouges clignotent dans le ciel et suppriment toute possibilité d'appréhender une perspective, un panorama. Mais bon, ça nous éloigne. Alors là, ce que je reprenais en effet, c'était la ville, la petite ville, la ville moyenne, comme les Tonnerres, ville magnifique par ailleurs.
La fosse Dionne.
La fosse Dionne et sa désertification, sa gentrification, le temps d'un dimanche ou d'un week-end de l'Ascension. Et puis pour le reste, sa mort programmée avec la fermeture de toutes les usines aux alentours, contemporaine de la désindustrialisation du pays, les quelques centres commerciaux qui ont ruiné les petits commerces à l'intérieur de la ville et puis les populations qui ont fini par partir. Et donc ces villes qui ne sont plus que des villes musées dans lesquelles ce couple vient errer le temps d'un week-end.
Oui, c'est d'ailleurs drôle qu'un week-end d'amoureux s'appelle le week-end de l'Ascension. Hein. Vous savez comme je suis. Hein. D'un seul coup, elle disparaît et on a l'impression... Alors, elle va revenir, hein. Mais on a l'impression qu'il y a comme une sorte de parallèle entre la disparition de la ville française de province et la disparition de Charlène.
Oui, alors ça c'est un détail que vous avez noté en effet. Cette disparition, pour moi, elle avait valeur d'alerte. C'est-à-dire que la relation qu'entretient le narrateur avec Charlène était une relation qui ne le bouleversait pas outre mesure. Elle était intégrée, rentrée à l'intérieur même d'un processus dans lequel il trouvait une forme de satisfaction. Et puis, il y a cet événement, il est pris dans ces échanges permanents à travers leur téléphone portable, qui fait qu'ils sont en communication quasiment 24 heures sur 24.
T'es où
peut-être
là
la nuit, t'es où là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Et brusquement, pendant 12 heures, elle disparaît. C'est une disparition extrêmement relative. Elle s'absente de sa boîte de messagerie. Et cette absence, pour lui, l'enferme littéralement, c'est-à-dire qu'il est totalement intégré dans tout d'un coup cette disparition, comme une alerte qui anticipe sa véritable disparition un peu plus tard dans le livre, et qui, puisqu'on parlait de Proust à l'instant, me fait penser, vous savez, à cette scène où Odette disparaît d'un salon de chez les Verdurin. Swann arrive, il ne la voit pas, il n'est absolument pas amoureux d'elle, il la trouve plutôt banale, hein, c'est la fameuse « cette femme qui n'est pas mon genre », sans grand intérêt, plutôt vulgaire, mais tout d'un coup, à la soirée des Verdurin, elle n'est pas là. Et alors, il prend une calèche et il fait tous les cafés, un à un, sur les grands boulevards, en espérant la trouver. Et Proust décrit absolument magnifiquement chez Swann, la naissance même du sentiment amoureux et de l'attachement profond qui va jusqu'à, évidemment, chez Swann, presque l'aliénation, à travers cet instant qu'est sa disparition extrêmement courte, extrêmement brève, mais disons cette première expérience du manque qu'il éprouve à l'égard de cette femme et que le narrateur éprouve à l'égard de cette Charlène à l'occasion de son effacement de sa boîte de messagerie.
Nous sommes sur Radio Courtoisie et j'ai vraiment le grand plaisir d'interviewer Philippe B. Grimbert, hein, n'oubliez pas, hein, même si vous avez de bonnes relations avec Philippe Grimbert, pour son dernier roman, et j'ai l'impression qu'il y en aura d'autres, hein. C'est Philippe B. Grimbert, donc, vient de publier aux Dilettantes L'Attaché et Eudes Presse. Alors, j'ai été conquis par, j'avais aimé vos précédents, mais là, j'ai eu un petit truc en plus. Mon truc en plume, peut-être, de Zizi Jeanmaire, parole de Bernard Dimet. Oui, à ce propos, vous citez Raymond Devos dans Pierrot le Fou. Ouais. Vous trouvez ça bon ?
Quoi, Pierrot le Fou ?
Les deux.
Je trouve cette scène, ce sketch de Raymond Devos, je ne sais pas si vous en avez le souvenir, c'est on voit apparaître Raymond Devos brusquement dans le film de Godard. Je crois que ça se passe à Marseille, sur un
pont,
un quai, absolument. Et Raymond Devos a cette histoire extraordinaire de cette rengaine, de cette femme, de ces femmes, puisque manifestement toute l'histoire de sa vie sentimentale tourne autour de cette question, est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu m'aimais ? Et alors Raymond Devos en fait une espèce de leitmotiv de sa vie affective qui montre à la fois son caractère répétitif, circulaire, aliénant, désespéré et désespérant de monotonie. Mais ça n'est pas parce qu'il est monotone et parce qu'il est toujours le même qu'il n'est pas aussi effroyable et aussi douloureux. Et d'ailleurs, cet homme est absolument brisé. Et donc, il y a un côté absolument comique et burlesque dans, évidemment, cette confession que fait Raymond Devos de cette répétition à cette même phrase. Alors là, ça n'est plus la femme, c'est la phrase répétée par plein d'autres femmes dans d'autres circonstances, mais qui le renvoie toujours à cette formule unique. Et je trouve cette histoire et ce sketch est probablement ce qu'elle dit aussi de ce qui arrive à ce narrateur qui, d'une certaine manière, n'a pas porté un grand intérêt à ce personnage qu'il a surtout choisi pour son effacement, pour sa neutralité, pour son invisibilité, mais ce qui ne m'a prévenu en rien la puissance même de son attachement et de son aliénation, comme s'il y avait quelque chose d'autre, de plus mystérieux, qui était à l'origine même de ce qui créait parfois le mystère d'un lien, le mystère d'une interdépendance, le mystère d'une aliénation dans une relation amoureuse, qui peut-être aussi n'est pas simplement une histoire d'être et de relation d'être à être, mais de fragment à fragment, de peau à peau, de geste à geste, de mot à mot, des choses finalement presque microscopiques et qui pourtant retiennent des individus à un attachement à la fois profond et presque aliénant, puisque on ne va pas dévoiler la fin du roman, mais ce personnage se perd dans cette extrême dépendance.
Écoutez, ce que vous dites est très bien, ce que vous écrivez est très bien, mais j'ai bien peur qu'on n'ait pas les mêmes goûts en cinéma. Vous m'avez cité Hitchcock et Pierrot le Fou. On parlera de ça une autre fois.
D'accord. ça veut pas dire que je suis pas un grand fanatique de Godard. Alors là, ouais. ne détrompez-vous.
Et d'Hitchcock ?
Hitchcock, pas tout, ça dépend. Il y a quelques films d'Hitchcock auxquels je suis très sensible.
Vous trouvez pas que le plus grand, par exemple, cinéaste français, c'est Sacha Guitry ?
Je suis d'accord, c'est un immense cinéaste, Sacha Guitry. Un immense.
Et le plus grand américain, c'est John Ford ?
Aucun doute là-dessus.
Eh ben, ça va.
Aucun doute là-dessus.
Dites-moi, oui, alors justement, c'est toute cette permanence de la dialectique aussi chez vous. Vous avez dû manier la dialectique dans votre jeunesse, car il y a une. C'est vraiment « je t'aime, donc je t'aime, je te quitte ». Puisque oui. Je t'aime, je ne peux pas faire autrement que te quitter.
Oui, enfin, en l'occurrence, là, c'est lui qui est quitté. Hein. C'est pas lui qui prend l'initiative.
Mais c'est toujours la femme.
Hein. Mais c'est toujours, oui, bien sûr. Mais disons
non,
que...
Mais...
Alors, ce que le narrateur, évidemment, expérimente, c'est que là, vous savez... Une histoire d'amour ne commence pas au début et ne se termine pas à la fin. Elle commence bien avant dans le genre que l'on a, où on voit bien ces personnages qui recherchent toute la vie le même type de femme et qui, s'ils changent de partenaire, retrouvent à peu près globalement les mêmes caractéristiques, qu'elles soient physiques ou psychologiques, ce qui montrerait que d'une certaine manière, ils ont commencé leur relation avec un individu inconnu bien avant de la rencontrer. Et la relation ensuite... vit ce qu'elle a à vivre, et elle continue bien après la séparation. Et pour certains, d'ailleurs, ce temps qui se situe après la séparation n'en constitue pas moins un temps absolument essentiel. Vivre avec l'absence de l'autre, vivre avec son silence, être enfermé après la disparition de l'autre... Et du téléphone peut, et c'est le cas de ce malheureux narrateur, constituer probablement la part la plus intense et la part la plus active de son attachement. Et c'est d'ailleurs c'est ce qu'il expérimente et ce qu'il décrit, c'est-à-dire que c'est au moment où cette femme disparaît complètement et où non seulement elle disparaît, mais alors là, il y a quelque chose de très contemporain dans cette disparition. C'est que cette disparition est brutale, totale, radicale et absolue. Il passe du tout au rien sans le moindre souvenir, la moindre trace, puisqu'elle va jusqu'à l'effacer, le bloquer, comme on dit aujourd'hui, de son téléphone portable, l'évincer, le néantiser lui aussi comme les paysages. Et là, c'est pas simplement un « je te quitte », c'est « je te fais disparaître » absolument à la mesure de ce que tu as pu être et de ce que tu as pu être surprésent ou surreprésenté dans notre relation. Et donc, c'est une forme d'érotisme de l'absence, de surérotisme de l'absence, une sorte de striptease de la disparition qui lui est proposée et qui met cet homme dans une situation de panique affective absolument totale, sans mesure probablement avec la nature même de l'attachement qu'il avait pour Charlène présente, Charlène incarnée, Charlène vivante, autre chose que Charlène absente.
Et dans cet acte, justement, vous dites, vous la décrivez, cette hallucinance staccato de l'index et du majeur que souvent elle avait exécuté face à moi en s'adressant à d'autres, experte en ces trilles frénétiques et nerveux qui m'évoquèrent plusieurs fois l'image érotique d'une secrétaire vintage, une sorte de Money Penny, James Bond, attachée à mes seuls services secrets.
Ça va, James Bond, vous supportez?
Oui, oui, oh, bah, y en a eu des bons. Et puis, James Bond dans votre sens, d'ailleurs. C'est... Non, mais attendez, vous savez chez voilà, qui vous
pas
êtes.
Mal, pas
quand
mal.
Même, bon. Alors, non, mais vous savez, votre livre est très, très... Et très riche, et donc j'ai pris plein de notes, mais évidemment on ne les retrouve pas, heureusement qu'on a mis des marque-pages. Oui, effacer n'est pas oublier, c'est ça la grande idée, c'est qu'on peut effacer tout ce qu'on veut avec le numérique, etc., mais...
Mais avant on gardait une lettre, on gardait une trace, on gardait quelque chose de l'autre, on ne disparaissait pas. Comme ça, de cette façon-là, comme ça, sur un clic, sur un et alors là, le vous avez remarqué l'importance qui est donnée à cette expérience du blocage, qui je crois dans les pratiques relationnelles est devenue quelque chose de très courant. Hein. Je te bloque, je te débloque, mais le blocage, il dit ce qu'il est et le personnage le prend au sens propre du terme. Être bloqué l'immobilise, c'est-à-dire au sens lui fait s'arrêter de vivre. C'est-à-dire que en étant bloqué dans le téléphone de Charlène, d'une certaine manière, c'est comme si son espace à lui intime, qui s'était pendant toute cette période essentiellement réduit à sa présence à l'intérieur de ce téléphone, faisait de lui, d'une certaine façon, un algorithme effacé, enfin bloqué au sens paralysé. Et donc, toute la démarche qui va être la sienne dans la dernière partie du livre va être de se remettre en mouvement, de se débloquer. Et d'ailleurs, il y a un jeu de mots, il dit « je me mets à débloquer » à tous les sens du terme, puisqu'il va commettre l'irréparable en allant forcer l'interdiction qui lui est faite de pouvoir revoir au moins cette femme pour avoir une explication, des mots, pour être reconfronté au réel de sa présence, ne pas rester dans ce blocage et cette disparition, et ça va lui coûter très cher.
Oui, d'ailleurs, c'est un peu annoncé. Elle me possédait désormais, me tenait entre ses mains, telle une dagide de chiffon qu'elle aurait transpercé en chacun des lieux sensibles de notre manège. J'éprouvais la perte de chacun, comme si j'en étais devenu le jouet, la poupée molle. C'est beau, l'idée du jouet, c'est plus fort, la poupée molle, que le, le jouet, d'ailleurs.
Ah oui, la poupée molle, oui, oui, c'est ce qui est fait de nous. En l'être abandonné. Comment survivre quand on est au-delà même de la nature de cette relation? Je trouve que le statut d'abandonné, le statut de celui à qui l'on dit « je ne veux plus de toi, je ne t'aime plus », est ce qui, d'une certaine façon, fait converger toutes les possibilités même de pouvoir se considérer autrement à un moment donné dans un temps de la relation que par le prisme même de ce jugement. Il a quelque chose de radical, de total, de définitif, qui en effet fait du narrateur quelque chose de presque inerte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un regard, il n'y a plus un mot, il n'y a plus un événement qui pourrait l'animer, autre que celui qui proviendrait de cette femme à qui a été délégué ce pouvoir absolument immense, elle qui n'était rien, ou pas grand-chose, ou très peu de choses, et en tout cas c'est là que son désir s'est engouffrée, elle est devenue absolument tout, elle est animée, elle, de la toute-puissance qui était totalement invisible au moment de leur rencontre.
Vous dites d'ailleurs un peu ça, en un mot je débloquais, j'aurais 100 fois préféré un coup violent, un coup de poing dans la gueule, des hématomes, un coup de couteau qui m'empêche de marcher, de me nourrir ou bien avec une saune, n'importe quelle plaie plutôt que cette sentence qui s'inscrivait non seulement dans mon esprit, mais ailleurs, à d'autres endroits sur ma peau, comme dans cette nouvelle de Kafka où un condamné se voit scarifier le motif de son exécution par une machine infernale jusqu'à ce que les pointes qui inscrivent le texte le transpercent de part et part en part, bloqué. C'est la colonie pénitentiaire.
C'est la colonie pénitentiaire qui est un texte extraordinaire. Mais ce n'est pas simplement la colonie pénitentiaire. Vous savez, on parle également, on a un sujet à la mode qui est de parler de la violence faite aux femmes, et on a raison de la dénoncer. Mais je trouve que dans cette histoire, on a tout d'un coup, fait abstraction totalement dans une relation affective de la violence qui s'exerce aux hommes, qui est une violence qui est une autre nature et qui n'est pas une violence physique dans l'immense majorité des cas. Et je pense notamment au personnage houellebecquien qui est celui, le héros de son premier roman. Dont vous vous souvenez peut-être ce personnage qui est un personnage assez fade, rejeté, humilié dans l'extension du domaine de la lutte et qui vit un véritable cauchemar affectif et relationnel et qui est l'objet d'un mépris féminin, d'une violence absolument inouïe. J'ai toujours été extrêmement sensible que Houellebecq parle aujourd'hui, à travers ce personnage, de l'existence même d'une violence qui existe et qu'il ne faut pas annuler sous prétexte que l'on est dans un combat sociétal qui a pour objectif, en effet, de dénoncer des formes de violence qui sont inacceptables et qui se doivent d'être juridiquement condamnées.
Bien sûr.
Absolument. Mais la relation affective est une relation qui est faite d'une alternance, souvent assez bien répartie, de victimes et de bourreaux.
De coups dans la gueule.
Et de coups dans la gueule. Et cet homme-là, il est violenté par cette forme cette forme numérique de violence qui semble d'ailleurs ne contenir aucune forme de violence puisqu'elle est virtuelle et qu'elle est numérique, alors qu'elle en a une absolument épouvantable et bien plus effroyable qu'une baffe dans la gueule, qu'un coup de poing. Hein. Coltès disait cette phrase magnifique dans un texte, je crois que c'est dans La solitude dans les champs de coton, il dit la vraie violence faite à l'homme, c'est pas de le blesser ou de le tuer, c'est de rayer son nom sur une lettre comme une feuille de papier qu'on froisse, c'est de détourner son regard qui fait de l'homme une erreur de la vue. Et bien c'est de ça dont il s'agit. Tout d'un coup, cet homme, par cette anonymisation, devient une sorte d'erreur. Il disparaît. Et cette violence-là, elle existe et elle est réelle.
Oui, je reçois des messages. Bonjour à Philippe B. Grimbert. Vos émissions sont toujours un enchantement d'intelligence et de nostalgie et de complicité bienveillante avec votre invité. Vous le pensez, j'espère.
Non, j'en suis.
Sans ça, je vous inviterai
c'est
plus.
C'est pour ça que c'est toujours un grand plaisir de venir ici,
votre
cher Alain.
Votre voix toujours juvénile, de beurre inchangé depuis des décennies. Voilà, voilà, amicalement. Et puis, bon, bah, tout ça, c'est très, très bien. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire parce que
j'espère
vous
bien.
Savez décrire aussi dans la vie moderne, vous savez décrire le... Je le lis, vous, les gens vont comprendre. Je décidais d'abord de me poster à l'entrée du cinéma UGC, situé à mi-chemin entre l'immeuble où Charlène exerçait son métier d'attaché de presse et la bouche de métro. J'avais par rigueur consulté les programmes, un blockbuster des studios Marvel et une comédie dont l'affiche montrait un groupe de trentenaires hilars partageant le même canapé. Une affiche que l'on voyait partout, au dos des autobus, mais me semblait-il depuis bien plus longtemps, pour d'autres films sans doute, portant d'autres titres, mais suggérant une même finalité, un même dénouement sur ce canapé, ou sur un autre, ou bien un banc, une plage, une maison de vacances. Mon Dieu, il y a des films à voir aujourd'hui.
Oui, c'est une référence, vous savez, à cette, encore une fois, à la monotonie, à la standardisation dans ces petites comédies françaises qu'on nous inflige à longueur de journée avec ces petites comédies de mœurs qui sont alors voilà, c'est une petite pique.
J'ai
l'impression
que vous devez préférer This is a 44 Magnum, the most powerful and gun in the world.
Absolument.
Dirty Harry. Dites-moi, vous, alors, petite question.
Ouais.
Votre héroïne habite ou va souvent au Plessis Robinson.
Ouais.
Vous connaissez le Plessis Robinson?
Pas du tout.
Ah bon, bah, vous devriez y aller, c'est magnifique.
C'est vrai, ah bah,
le
j'irai.
Maire, M. Pemzek, a fait refaire sa ville à l'ancienne. On est dans un conte de fées.
Eh ben écoutez, oui. je vais y aller, cher Alain. C'est bien de découvrir après des lieux sur lesquels on a écrit sans les connaître, parce que d'une certaine façon, moi, j'aime beaucoup d'écrire des lieux que je ne connais pas. C'est très important.
J'ai fait ça pour l'Écosse.
Ouais. Ben oui.
Je suis allé en Écosse, j'ai vu que ça ressemblait exactement à ce que
vous
j'avais
aviez
pensé.
Écrit. Et je trouve que c'est très agréable de découvrir un lieu sur lequel on a déjà écrit.
Alors, cher Philippe B. Grimbert, vraiment, je recommande l'attaché et de presse aux éditions du Dilettante, mais j'ai envie de vous dire, je vais être un peu dur, enfin, c'est pas à part vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de notre époque. Finalement, est-ce que la vie n'est pas en train de devenir aujourd'hui l'intervalle entre deux appels de smartphone, de cellulaire, ou ce qu'on
c'est
veut?
C'est possible, oui. C'est possible, avec des intervalles qui doivent être de plus en plus courts. Hein. Comment faire en sorte que la solitude, le silence, l'isolement, la concentration, tout un tas d'expériences psychiques tout à fait singulières dont on sait à quel point elles sont essentielles, et je pense qu'elles le sont pour nous, mais elles le sont aussi dans le temps des relations affectives, des relations amoureuses, qui ne soient pas polluées ou saturées en permanence de bruit, de mots, simplement d'un espèce de running, d'un process toujours en marche, toujours en activité. Il y a quelque chose d'absolument effrayant, parce que c'est le début de la numérisation de nos existences, c'est-à-dire on est dans la prophétie de Günther Anders hein, sur l'obsolescence, vous savez, l'obsolescence programmée de l'homme hein, que envisageait le philosophe allemand Günther Anders, qui anticipait déjà bien avant...
Il vivait à quelle époque?
Oh, c'est un Allemand, c'était le mari d'Anna Arendt, hein. Il a émigré en France... Que... Voilà, et il a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, alors même qu'il ne savait rien de l'IA, de TikTok et de ChatGPT, mais il avait déjà tout pensé sur un monde qui petit à petit nous déposséderait de la possibilité même d'avoir avec nos environnements des processus qui soient faits de temps, c'est-à-dire de séquences, mais aussi de temps singulier, d'appropriation de soi, de nos émotions, de notre solitude, de notre isolement, qui sont aujourd'hui absolument rédhibitoirement impossibles, enfin absolument impossibles. Et je pense que la relation amoureuse, la nouvelle relation amoureuse qui vit sous le dogme de cet outil, de cet engin mortifère qui donne le rythme, le là, la fréquence, a aussi quelque chose qui probablement vient transformer les relations amoureuses, pas simplement par les applis de rencontre et des rencontres et des affinités qui sont gérées par les algorithmes et non plus par le hasard d'un visage dans le métro, dans la rue, où il devient probablement obscène aujourd'hui d'adresser la parole à une femme qu'on ne connaît pas si on n'est pas réfugié derrière une application de rencontre ou un profil qu'on a liké sur un je ne sais quel site. Le réel lui-même devient un lieu suspect, aussi à l'intérieur même du lien affectif. Et oui, je suis, moi, plus inquiet pour les générations à venir qui vont avoir probablement beaucoup de difficultés de s'extraire de cet environnement technique et numérique.
Oui, mais ils auront peut-être beaucoup moins de difficultés que nous à nous y mettre.
Ah, certainement, la maîtrise est de leur côté, il n'y a aucun doute. Mais est-ce que la maîtrise va tout faire ou est-ce que c'est simplement la maîtrise d'un outil pour un outil qui va en même temps les vous savez, regardez par exemple, avec Google, on est en train de perdre la mémoire. Hein, aujourd'hui, on ne se souvient plus de rien puisque tout est stocké sur un disque externe qui est notre téléphone. Et d'ailleurs, à chaque fois, on passe notre temps à dire « Attends, je vais retrouver le nom du type, le nom du livre, le nom du film, la date. » Notre mémoire ne nous sert plus à rien. Nous localiser dans l'espace, c'est terminé également avec nos logiciels de géolocalisation. On en a perdu aujourd'hui toute nécessité. Aujourd'hui, avec ces outils d'intelligence artificielle, on a la possibilité même de créer des textes, des articles, des modes de pensée tout à fait qui vont venir se substituer à quoi ? À une capacité à penser, à écrire, à créer. Je ne sais pas ce qui va rester de nos capacités cognitives et affectives également dans les années qui viennent.
Une dernière question. Vous avez lu Le cauchemar climatisé d'Henri Miller ?
Non, je n'ai pas lu. Mais... J'adore Henri Miller, mais je n'ai pas lu Le cauchemar climatisé. Bah,
c'est un beau titre, mais est-ce que votre livre, ce n'est pas la description du cauchemar numérisé?
Ah bah écoutez, ça aurait eu un très joli titre pour ce livre en tout cas, Le cauchemar numérisé. Je vous remercie pour
oui, mais
cette...
on vous aurait dit, oh il a encore copié Henri Miller.
Bon, vaut mieux copier des génies que des cons.
Génie, je sais pas, mais enfin, il a beaucoup compté, surtout peut-être dans nos adolescences.
C'est vrai. Je ne l'ai pas relu depuis très longtemps, alors je ne sais pas s'il est encore lisible.
On passe son temps. Moi, j'ai lu à 17 ans avec enthousiasme Boris Vian, puis quelques années plus tard, ça m'est tombé des mains.
Comme vous.
Non, les chansons sont très bonnes.
Oh, les textes sont extraordinaires.
Voilà. Bon, bah écoutez, notre ami Philippe Beyrimbert, vraiment, mais vous savez, je touche absolument rien là-dedans. Hein. Mais vous avez intérêt à vous procurer aux dilettantes l'attaché E de presse de Philippe Beyrimbert. Et puis vous êtes aussi chez un bon éditeur qui suit les auteurs.
Un vrai éditeur qui aime les livres.
On peut peut-être citer leur nom.
Le dilettante, hein, bien sûr. Dominique Gauthier. Marie Sanson, et puis toute cette équipe qui est une équipe formidable au service des livres et des auteurs qui les aiment, qui les accompagnent. Pierre Marquand, qui est attaché de presse également et qui est une équipe de petite taille, mais très humaine, très, très attentionnée et qui aime les livres, qui aime la littérature. Hein, et qui, c'est la formule qui est utilisée par Antonin qui dit « Je cherche moins... un livre pour un auteur que l'inverse. Hein, voilà.
Ah, c'est pas mal. Je vous remercie, Philippe Beyrimbert, pour votre livre, L'attaché de presse. Mais là, maintenant, on va parler de Tchekhov. Et alors, j'ai mis une petite musique, vous savez, en hommage à Tchekhov. J'ai mis une musique russe et j'ai mis Les Chœurs de l'Armée Rouge. J'espère que ça ne vous dérange
pas. Ça ne me dérange pas. C'était le disque de chevet de mes parents, Les Chœurs de l'Armée Rouge.
Ah, je crois comprendre leurs orientations, peut-être, n'est-ce pas? Non, mais c'est des vrais chanteurs. On va écouter Katyusha.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
Про того, которого любила, про того,
услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветает.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Retour à bord avec Natalia Komarova. J'espère que je prononce bien avec les accents toniques et tout.
Parfait.
Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Natalia Komarova? Katyusha, c'est un prénom, non?
C'est un prénom. Bonjour d'abord à tous nos chers amis. Oui, Katyusha, c'est un prénom féminin.
Ah bon?
Et c'est diminutif de Katia, Yekaterina.
C'est la petite Katia petite... adorable, quoi.
Voilà.
Mais c'était pas aussi des canons, non?
Oui, tout à fait.
C'était les orgues de Staline, ceux qui faisaient...
C'est ce qu'on appelait aussi, oui.
Alors, je vous reçois parce que vous êtes une femme formidable. Vous éditez des classiques russes dans votre maison d'édition qui s'appelle les éditions Natania.
Tout à fait.
Et vous venez de publier coup sur coup trois Tchekhov, dont un inédit d'ailleurs. C'est des... Alors, vos livres sont magnifiques à voir.
Merci.
Parce
ça
que
me fait plaisir.
Ils sont très bien illustrés. Ils sont bilingues. Alors, bilingues avec le cyrillique, hein, mais bon, ça, il faut quand même comprendre.
Langue d'origine.
Ben voilà, bon. Alors, donc,
on
va parler un peu des éditions Natania. Elles existent depuis combien de temps? Combien ont-elles publié de livres?
Merci de m'avoir invité déjà à cette émission.
Non, mais faut jamais m'en remercier.
J'ai toujours le plaisir de venir et de vous voir et de participer dans vos émissions qui sont très intéressantes. Et j'ai le plaisir de présenter notre maison d'édition qui est un statut associatif parce qu'initialement, elle était créée il y a déjà 12 ans. Ouais, le temps passe vite. Pour le but de soutenir les artistes dans toute leur expressivité et tous les talents, la littérature, la langue et les cultures. Et donc, normalement, on travaille avec les jeunes artistes ressortissant des écoles d'art, de communication, qui souhaitent participer à nos projets. Les buts sont multiples de notre édition. C'est non pas seulement mettre en valeur l'auteur grâce à la traduction, rafraîchir les mémoires en donnant une autre vision sur les œuvres qui sont immortelles et qui restent toujours contemporains, mais qui sont un peu oubliées, en lui donnant une autre traduction. Avec le vocabulaire, accompagner les textes en langue en cyrillique sont accompagnés aussi avec l'accent tonique pour ceux qui apprennent ou continuent à apprendre la langue russe. Et en même temps, mettre en valeur les artistes. Voilà, donc à la sortie de chaque livre, à l'apparition de chaque notre ouvrage, on organise les soirées musicales, littéraires pour mettre en valeur et les originaux des illustrations ont aussi présenté l'illustrateur, l'artiste, et en même temps présenté aussi l'œuvre en soi. Donc ce sont les artistes sur scène, bien souvent ce sont les artistes de genre scénique de différents genres. Il y a les chants, il y a aussi la citation de l'œuvre. C'est ce qui était passé, l'année 2025 était consacrée, dédiée aux œuvres de Anton Paul Tchekhov. C'était son son année de l'anniversaire, 165 ans. C'est une belle date à fêter. Et donc, nous avons sorti 4 ouvrages au total. Il y a un recueil qui est composé de 3 nouvelles qui s'appelle « Ironie d'Anton Tchekhov ». Et 3 nouvelles qui sont richement et joliment illustrées par deux artistes parisiennes qui sont très talentueux. J'espère que les lecteurs vont partager cet avis. Et donc c'est Hortense Dufour et Anna Komarova qui ont fait leurs études
à l'école. Anna Komarova, c'est vous ?
Non, c'est ma fille.
Ah bon?
Et donc, ils sont ressortissants de même école, école Penningen, ESSAG de Penningen, de différentes années, mais qu'ils sont rencontrés, se sont rencontrés et maintenant, ils travaillent ensemble pour faire des belles fresques de grande taille à la commande pour la décoration des grands espaces et des petits espaces.
J'en ai vu une de leurs fresques dans l'est de Paris, sur le boulevard des Maréchaux. C'est le... les chiffonniers d'Emmaüs, une boutique d'Emmaüs.
Tout à fait. Oui, excellente mémoire et merci.
Oui, je suis allé voir spécialement, moi, je fais bien mon travail.
C'est leur premier travail, leur première œuvre qu'ils ont fait ensemble. C'est à part ça, c'est commencé voilà, leur création ensemble qui s'appelle Fresque. Et donc dans ce recueil, il y a 3 petits récits. Conversation entre un ivrogne et un diable sobre. La mort d'un fonctionnaire et un point d'entre eux. Donc, c'est ça. Deuxième livre qui est sorti à destination des enfants.
On en parlera tout à l'heure peut-être, mais...
Tout à fait.
Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur votre maison d'édition. Comment peut-on se procurer vos œuvres, les œuvres que vous publiez et éditez ?
Il y a le site internet qui s'appelle un seul mot, édition au pluriel bien sûr, editionnatania.com.
Voilà.
Là on peut trouver toutes nos parutions de toute année confondues, qui sont séparées par pour ceux qui souhaitent apprendre la langue ou ceux qui souhaitent lire. Donc il y a aussi pour les enfants, il y a déjà une belle collection de contes populaires russes et contes populaires tchétchènes, contes et légendes du Daghestan et contes populaires de la Bachkirie.
Mais vous êtes peut-être présente dans quelques librairies quand même.
Moins en ce moment-là, malheureusement, mais quand même, il y a des fidèles. Sinon, les libraires passent aussi les commandes suite à la commande qu'ils ont eue de leurs lecteurs, en fait, de leurs clients fidèles.
Voilà. Alors maintenant, on va parler d'abord de Tchekhov, que... C'est un grand, quoi. Enfin, chacun aime la littérature russe. Et d'ailleurs, il y a toute une partie de la littérature russe qu'on connaît très mal. Très peu de gens, par exemple, ont lu Oblomov de Goncharov, qui est peut-être un des romans les plus... qui donne le plus l'idée de la société de la russe juste avant la Révolution.
Quoi. Mais regardez, si on regarde la littérature classique, en quelque sorte, en russe, elle est immortelle. On peut dire que aussi bien toutes les œuvres de Tchekhov n'ont pas perdu leur actualité aujourd'hui. Et ça ne dépend pas du contexte du pays, c'est humain.
Oui, d'accord. Mais je veux dire, ce qui est passionnant aussi, c'est de suivre dans une littérature ce qui... quand ils apportent, ils ont la prescience un peu de ce qui va suivre. Et Goncharov, c'est un roman où quelqu'un ne fiche plus rien, c'est-à-dire que l'intellectuel ne joue plus son rôle, quoi, en quelque sorte.
Oui.
Alors, parlons de Tchekhov.
Qu'est-ce qu'on va dire de Tchekhov ?
Il est né d'abord en 1860 en Crimée, je crois.
Non, c'était pas la Crimée.
Ah bon ?
C'était pas la Crimée, c'était Taganrog.
Et ça se trouve
c'est
où, ça
vers le sud de la Malorossie, qui était aussi partie qui a, près de Dessa, donc c'est le sud de l'ex-Union de la Russie de cette époque-là.
Ouais, ouais.
Et donc ça s'appelait Malorossie, petite Russie.
Comme il y a une Russie blanche, il y a une petite Russie.
Tout à fait, tout à fait. Donc, il était né à Taganrog. Il a vécu dans cette ville pendant les premiers 19 ans. Là-bas, il a terminé ses études. Et par la suite, ils sont déménagés. Donc, ce que je voulais dire, que son père était un homme instruit, passionné par les arts et les sciences naturelles aussi. Dans sa jeunesse, il jouait au violon, à la lecture des partitions, dessinait, peignait des icônes aussi. Doté d'une belle voix et d'une oreille musicale, il chantait dans la chorale de l'église, dont il fut le chef de chœur, jouissant d'un respect mérité, bien entendu. Et Anton Pavlovitch Tchekhov affirmait tenir de lui sa nature artistique, talentueuse. Donc, après avoir vécu 19 ans, il a terminé ses études et donc la famille a fait faillite et dû fuir des créancières. Et donc, ils sont passés et déménagés à Moscou. Et là, par la grande demande de la part de sa maman, il est entré à l'université pour faire ses études en médecine.
Aïe.
Et vous savez que c'est un phénomène phénomène dans l'humanité. C'est quelqu'un qui a peu vécu dans sa vie, c'est 44 ans.
Oh là là.
Seulement en 25 ans de sa carrière de la littérature, en quelque sorte, il a écrit plus de 900 œuvres.
Wow.
C'est un auteur le plus connu et le plus lu. Et le plus traduite dans le monde.
Et le plus joué, sans doute.
Et le plus joué dans au théâtre, où il y a peu de pièces qui ne sont pas encore passées en cinématographie, en grand écran, sur les grands écrans.
Mais vous savez, on disait par exemple que quand un directeur de théâtre avait fait un four, il montait tout de suite un Tchekhov, parce qu'il savait que ça allait marcher. Quoi.
C'est imbattable.
Alors, bon, c'est la cerisée, c'est des choses.
C'est Oncle
Vania,
c'est
oui, voilà,
aussi.
C'est ça. Voilà. Non, mais c'est...
Oui.
Mais alors, 44 ans, il est mort de quoi?
Il a attrapé la maladie de poumon.
La tuberculose.
La tuberculose, et donc... il a traité tout le monde, les masses, et donc il a travaillé gratuitement pour plus de aux alentours de plusieurs kilomètres. Il pouvait faire les détours, aller voir les malades. Il les a soignés gratuitement et il s'occupait pas de soi.
Ça prouve que c'est non seulement un grand écrivain, mais c'est un homme bien, quoi, voilà. Mais alors, 44 ans, c'est quand même un peu juste. Mais la médecine... Alors, son premier roman, c'est... Il est très connu et très traduit. Il y a même, je crois, il y avait à l'âge d'homme une traduction de Vladimir Volkov, c'est La Steppe.
La Steppe, c'était le plus connu, oui, c'était ça. Et la première fois quand elle a écrit, c'était en 1879, dans le journal qui s'appelle L'Esprit Cosa. Donc, c'est la libellule, en traduction.
L'esprit cosaque.
Un peu, oui, ça.
Oh là 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 là, ça veut dire quoi, l'esprit cosaque, alors?
Non, mais c'est libellule, c'était ça.
Ah bon,
c'était
d'accord.
Le nom de petit...
Très très bien, très très bien. Alors, sa première pièce, c'est Ivanov, je crois, hein. Ou peut-être que je me suis trompé en préparant l'émission. Il faut toujours demander à ceux qui savent. Moi, je ne sais pas grand-chose. Enfin, écoutez, sa première pièce serait en... après La Steppe, alors. S'il vous plaît. Veuillez ne pas lire, s'il vous plaît. Cher Natalia.
Je cherche, mais je ne...
Vous ne trouvez pas. C'est pas grave, on va passer à autre chose. Alors, il est allé dans un endroit très froid... qui s'appelle l'île de Sakhaline. Elle a une particularité, cette île.
C'est une île de réfugiés, en quelque sorte, qui étaient en fait des exilés, qui étaient...
Ah, des punis, alors des gens qui étaient punis.
Oui.
Il a été puni ou il a simplement visité?
Non, il
visité?
Était en travail en tant que médecin.
Très bien. Et puis alors, il a connu une grande famine, je crois. Après, il y a eu une famine en Russie entre 1892 et 1893. Et il a connu cette famine en tant que médecin. Vous savez pas? Ah ben dis donc. Alors...
Je peux pas vous dire de cette période de sa vie. Famine. La grande famine était. Vous parlez de Sakhaline?
Oui, oui.
Ce sont les conditions rudes qui étaient là-bas, donc, et les gens qui étaient malades, donc il a étudié la maladie, il les a soignés, donc il a apporté de l'aide. Bien entendu que les conditions étaient très rudes, pour la famine et pour le manque de tout dans leur...
Parlez bien devant le micro, s'il vous plaît.
Ah, pardon, pardon.
Et alors donc, et à partir de là, il va, c'est peut-être ça ce qu'il a vu à Sakhaline qui font qu'il, on dirait, enfin ça n'a pas le même sens qu'aujourd'hui bien entendu, mais il y a eu un virage à gauche. Il est devenu plus ou moins un peu, enfin virage à gauche, j'exagère, mais disons qu'il a été peut-être plus oppositionnel dans ses relations avec le pouvoir.
Il était toujours à part dans,
oui.
dans ses conviction, il était très humain et vous savez bien qu'il a refusé même tous les titres et les prix du gouvernement de l'époque, disant que les meilleurs mérites, c'est les mérites qu'on obtient par notre propre parcours et notre propre vie.
Oui, bien sûr, mais
donc,
je crois qu'il faisait partie d'une académie et il a démissionné.
C'était pas ce qu'il a démissionné, il a refusé le titre d'un académicien.
Parce qu'on avait viré Gorki, je crois.
Ouais, pour montrer la solidarité avec Gorki, oui, exactement.
Oui, alors à partir de là, il va écrire La Mouette, je crois.
Oui.
De quoi parle c'est La Mouette et du théâtre, hein? Ou d'une nouvelle?
D'abord, c'était une nouvelle, et après, donc, c'est passé par mettre sur scène cette nouvelle. Mais normalement, c'était une pièce qui était écrite, et comme elle avait dans son cercle d'amis, comme Nemirovitch Danchenko, donc c'est passé comme une pièce de théâtre, et la première version de La Mouette n'a pas eu le succès. Vous savez que là, il était un peu déçu, et par la suite, il y avait le changement des acteurs, la révision de la pièce, et donc après, c'était le succès qui perdure les siècles.
Mais par exemple, sa première pièce, il la joue à Moscou.
Oui.
Il l'a joué à Moscou.
Oui.
Et c'était dans un petit théâtre, un grand théâtre, parce qu'on s'aperçoit moins que c'est un insuccès quand la salle est petite. Hein, vous savez.
Je ne peux pas vous dire la taille du théâtre, mais le théâtre de... De boulevard, par exemple.
Oui, oui, un beau théâtre.
Beau théâtre de
Moscou. Et donc, la première fois, ça a été un insuccès. Mais il s'est rattrapé peut-être avec l'oncle Vania, alors. L'oncle
oui,
Vania...
C'était une deuxième pièce qui était
oui, oui,
ouais,
ça aurait été 1897,
et,
je crois.
Et donc là, oui, plus de succès et plus de la suite qui... Ça lui a bien rassuré. Et après, donc, je ne me souviens pas qu'il y avait d'autres pièces qui ont eu cette mauvaise entrée comme La Mouette. Le reste, les autres pièces étaient bien jouées par... avaient eu le grand succès dans la représentation.
Oui, bien joué, bien reçu, etc. Aucun problème. Trois sœurs en plus.
Trois sœurs.
Et je crois que ça a été joué en France par deux sœurs, d'ailleurs, qui étaient Marina Vladi et Odile Versois. Mais vous n'étiez peut-être pas née même.
Si, déjà.
Ah, nous sommes sur Radio Courtoisie et il y a des messages. Alors, dites donc. Oh là 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 là. Alors, voilà. Ça, c'est Paul qui nous envoie un message. Et vous... Bonsoir à tous. Un petit détail. Je viens de voir que Tangorog est au nord du Caucase, près de Rostov. Ce n'est pas la Malarossia.
Taganrog.
Eh bien, vous êtes prise en défaut, là.
Malarossia.
Oui.
C'était écrit partout, c'était Malarossie.
Ah bon, alors Monsieur Paul se trompe.
On va voir. Non, peut-être, on va voir ça.
Oh là 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 là.
Où est-ce qu'il avait trouvé cette information?
Il a dû le trouver comme tout le monde sur Internet aujourd'hui. Ah. Bon, nous sommes sur Radio Courtoisie et il me pose une autre question. Quelle langue étrangère parlait Tchekhov, français, allemand? Je sais qu'il est venu à Nice.
Ah, il était à Nice, bien sûr, il était, il a bien voyagé. Et je peux vous dire que...
Allez-y. Alors, on va dire que vous représentez les éditions Natania et que vous venez de sortir trois nouvelles de Tchekhov, dont une qui est plutôt pour la jeunesse. Et alors, je demande un peu pardon aux auditeurs parce que Natania Komarova, vous savez, c'est pas sa langue natale qu'elle parle, et même si elle parle bien le français, mais elle a des petits problèmes de traduction. Ne lui en veuillez pas, vous savez, et en plus, c'est une femme charmante. Alors, je vous pose la question.
Ça
donc,
n'excuse pas.
Voilà, Les Trois Sœurs, c'est en 1900. Ensuite, La Sœur Isée. Parlez-nous un peu de ces pièces, même si vous ne les avez pas éditées.
Mais vous m'avez parlé des questions de voyage où il est
à Nice,
où il était,
oui.
Et il était non pas seulement à Nice, mais il a traversé non pas seulement toute la Russie. Il était à Vienne, en Bologne, en Florence, à Rome, à Genoa, à Naples, à Monte-Carlo, à Paris aussi. Et il était assez long à Hong Kong, à Singapour. Et bon, il s'est préparé pour un voyage à Japon, mais malheureusement, ça n'était pas passé. À Monte Carlo, et, bon, il avait aussi une sorte de passion pour jouer au casino, là où il a perdu un peu des sous.
Mais ce n'est pas lui. Et pourtant, ce n'est pas lui qui a écrit Le Joueur.
Non, c'est Dostoïevski, on ne va pas...
Voilà.
Donc, il était à Nice, effectivement, comme à Paris aussi. Oui. Vous m'avez parlé de...
On va parler un peu de ces pièces, des nouvelles. Oncle Vania, Trois Sœurs, La Sœur Isée, tout ça. Vous les avez vues en russe ou vous les avez vues seulement en français?
Non, en français, je n'ai pas lu, en fait. Mais j'ai regardé les pièces de théâtre en français aussi. Mm-hmm. Mais dans mon enfance, bien entendu, que tout le monde avait regardé les pièces et, en version originale.
Mais ça passait, vous alliez les voir au théâtre avec vos parents ou ça passait à la télévision russe?
Non, au théâtre. Au théâtre, pas seulement avec mes parents, mais avec mes amis de mon enfance, adolescence.
Oui,
donc c'est toujours été...
Une adolescence russe,
théâtres.
mon Dieu. Donc nous sommes sur Radio Courtoisie, je le rappelle, avec Natalia Komarova, et on parle de ces trois bouquins dont nous allons parler, hein, les trois éditions de Tchekhov. Mais... on sait que bon, il a aussi écrit Salle 6. Ce sont des nouvelles, je crois, Salle 6. Hein,
oui.
Trois Sœurs, ben oui, ça a été joué. Récit d'un inconnu et Le Moine Noir, dont je n'avais jamais entendu parler. C'est une pièce, un roman.
C'est beaucoup de nouvelles qu'il a écrit.
Beaucoup de nouvelles. Oui.
Donc, disons qu'il a écrit plus de 900 œuvres.
Oui, oui.
Donc, pour dire que j'ai tout lu, tous les 900 œuvres,
je ne peux
pas mentir. Mais je peux parler de ce que j'ai choisi, pourquoi je les ai choisis.
On va en parler, on a tout notre temps, Natalia. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il était admiré par Gorky et Léon Tolstoï.
Avec Gorky, c'était l'amour, en fait, c'était une très très bonne amitié. Et non pas seulement Gorky, mais aussi il y avait Ivan Bounine, Vladimir Karalenko.
Les Allées Sombres, magnifique auteur.
Aussi, oui.
Et puis
Comme
Tolstoï.
Tolstoï aussi. Et puis, vous dites avec qui il était en amitié. Il a, quand il a vécu près de Moscou à Milikovo, il a acheté une petite résidence près de la maison où habitait la famille de Pouchkine. La maison était toujours pleine des amis. Et il a dit qu'il adore accueillir les gens, qui les portes n'étaient jamais fermées de sa maison. Et peu importe où il était après, par la suite, se déplacer où il vivait, c'était toujours beaucoup de monde qui visitait sa maison. Il y avait Levitan, Gilirovski, Nimirovich Danchenko, Shiglov, Patapenko, tous ces gens-là, Riepin, bien sûr Tolstoï.
Alors Riepin, qui est un peintre, hein, qui est le chef de file des ambulants.
Compositeur Tchaïkovski, donc tous sont ces gens-là qui adoraient venir passer le temps ensemble avec lui en amitié. Et Tolstoï, ben, disons que c'était un des amis comme Tchaïkovski, comme Gogol. Il a aimé la littérature. Il a dit Tolstoï existe en littérature, il est facile et agréable d'être écrivain, et il a adoré ses œuvres. Et surtout La guerre et paix.
Oui, bien sûr.
Comme il a dit, chaque nuit je me réveille et je lis Guerre et paix.
Enfin,
on lit ce livre avec une curiosité, un étonnement naïf, comme si on ne l'avait jamais lu auparavant. Voilà les œuvres qui lui a aussi impressionné, qui lui a laissé une grande trace.
Alors, nous allons parler de ces trois nouvelles de Tchekhov que les éditions Natania viennent de rééditer. La première s'appelle « Blanfronnet ». Alors, c'est plutôt pour enfants. Un film d'animation a été réalisé à partir de là en 2010, qui a eu beaucoup de succès. Alors, le Blanfronnet, ça veut dire front blanc, c'est un chien avec une tache sur le front, je crois.
Tout à fait, tout à fait. Pourquoi c'était le choix de ce récit? Parce qu'il était le premier que Anton Tchekhov avait écrit à destination des enfants. Et il a dit que le plus difficile à écrire, c'est pour les enfants. Et donc, c'était quand même presque un an qu'elle a mis pour, non pas seulement écrire, mais relire et le mettre en bon état. Il a mis un an pour mettre en lumière, en fait, pour le publier. C'est une excellente histoire, très drôle, amusante et en même temps, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour envers les personnages de ce livre. Et l'illustratrice beaucoup du talent, parce qu'on a mis, elle habite à Karlsruhe en Allemagne, et donc elle a fait les dessins un peu à l'ancienne, vous voyez, donc avec aquarelle, en donnant un peu à cette œuvre le regard un peu hors temps.
Mais vous savez que vos livres sont en même temps. Non seulement le fond est intéressant, Tchekhov, les illustrations, mais ce sont des objets, des beaux objets.
Merci.
Pas cher,
merci.
9 euros, c'est rien. Enfin, faut pas. 9 euros, bon, c'est rien du tout. Et tout ça se trouve sur le site des éditions
sur
Natania.
Sur le site, où on peut aussi commander chez Gilbert Joseph. À Paris, quand même, il y a pas mal des libraires qui travaillent avec moi, comme Le Merle Moqueur, Globe. Imka Press, c'est à peu près tout. Mais
c'est très bien,
on peut
vous faites
commander.
Un excellent travail.
Merci beaucoup.
Et vous l'avez fait aussi pour L'étudiant, l'autre nouvelle de Tchekhov. Alors là, on est plutôt dans... Il y a d'abord une sorte de parabole sur Jésus. Et puis, finalement, c'est par Jésus que un jeune étudiant, bon, les étudiants sont souvent jeunes, qui ouvre les yeux à la vie, et c'est magnifique. Parlez-nous-en un peu.
Encore une fois, notre choix. Pourquoi on a choisi cette œuvre? Parce que Anton Tchekhov considérait ce récit comme l'un de ses récits les plus chers et les plus accomplis, et qu'il a aimé tout particulièrement. Il était mis à part. Et donc là, il parlait de l'âme humaine universelle et des sentiments intemporels.
Et un petit donc, peu aussi à travers, cette... les évangiles, à travers les évangiles.
À travers les évangiles, disons que c'est quelque chose qui ne change pas, vous voyez. Donc, et à travers cette œuvre, il montre la particularité de l'âme humaine. Ce n'est pas attaché à la Russie, c'est universel vraiment.
Ouais, ouais.
Donc c'est pour cette raison que nous avons cette révélation était. Oui,
c'est en ce sens que on aime tous les bons écrivains, ou tout ça, ceux qui sont chauds à notre cœur, on les aime tous, qu'ils soient de Russie, des États-Unis, du Portugal, de la Perse, puisqu'on en parle en ce moment, voilà, Omar Khayyam, enfin, on aime tout ce qui est bon et tout ce qui touche à notre cœur. Car je crois que la littérature, elle touche pas l'âme. Enfin, l'âme, oui, mais c'est le cœur l'âme est dans notre cœur et d'ailleurs on le sent bien que quand on écrit, c'est un peu mon cas et vous aussi sans doute, c'est la main, mais la main elle est guidée, c'est ça qui est formidable.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça traverse un sens profond et c'est un fil invisible, l'évangile qui relie le passé au présent et qui illumine quand même l'avenir. Donc c'est quelque chose d'immortel et profondément universel. Petite histoire, à quelques pages de lecture avec beaucoup d'images à l'intérieur qui permet de méditer un peu sur notre existence contemporaine.
Mais c'est à ça que sert la littérature d'ailleurs.
Sachant que peut-être les gens n'ont pas beaucoup de temps à passer à la lecture, ce petit ouvrage pourrait un peu occuper un peu de temps pour la réflexion éternelle.
Troisième conte qui est un peu plus long.
Nouvelle.
Nouvelle, oui. La sauterelle.
Ah.
Alors, elle est totalement inédite en France. Hein?
Je n'ai pas trouvé la traduction.
Elle parle... Oui, allez-y.
C'est, d'une part, c'est surprenant parce qu'on a parlé de plusieurs pièces de théâtre qui sont bien jouées, que tout le monde connaît. Et malheureusement, La Sauterelle est injustement n'était pas mis en lumière. Pourtant, même en Russie, le film était de l'époque 1950, les années. C'était le film qui était sorti en noir-blanc encore à l'époque. Et depuis, il n'était pas très connu. Et récemment, ils ont repris aussi la scène de théâtre. Maintenant, ça se met en pièce de théâtre.
Vous avez le nom du réalisateur de ce film? Non. Mais ça peut se trouver.
Ça peut se trouver sur YouTube.
Alors, c'est la description d'une vie heureuse et paisible. Et je vais simplement lire un paragraphe que je trouve sublime, superbe, et non seulement bien écrit, mais sans doute bien traduit, excellemment traduit. C'est vous qui l'avez traduit ?
Mais heureusement que je traduis mieux que je parle.
Parce ah, que quand mais je, non, mais on je vous préfère, aime, parce que votre
rester,
accent est charmant.
Dans mes papiers et dans mes entouré par mes chers dictionnaires et vocabulaire.
Non, mais vous, de toute façon, vous avez une voix charmante. Toute voix, tout accent étranger est charmant. À côté d'elle, Ariabovski parlait à voix basse. Il disait que ces ombres noires sur l'eau n'étaient pas des ombres, mais un rêve. Que devant cette eau magique, ensorcelée aux reflets fantastiques, devant ce ciel sans fond, devant ces rives mélancoliques et songeuses qui parlaient de la vanité de notre vie et en même temps de l'existence de quelque chose de plus haut, d'éternel, de bienheureux, il serait bon de s'oublier, de s'effacer, de devenir un souvenir. Le passé est vulgaire. Il n'intéresse donc plus hier. L'avenir est dérisoire. Et cette nuit merveilleuse, peut-être la seule belle nuit de la vie, va bientôt se terminer, passer à jamais, se fondre dans l'éternité. À quoi bon vivre davantage ? Bien écrit, bien traduit, c'est une poésie.
Je ne suis jamais content de mes traductions, bien entendu que je pense que
si
c'était un bon traducteur professionnel, il pourrait faire le travail mieux que moi. C'est que écrire comme Tchekhov, il faut être prétentieuse.
Oui, mais vous savez, pour moi
mais
c'est
j'ai
pareil.
J'ai essayé
hein.
de faire mon meilleur de moi pour trouver
écrire,
les bonnes phrases, les bonnes tournures, les bonnes, pour que ça ne perde pas le sens en plus. Et vous savez que Tchekhov, il adorait que les phrases doivent être courtes.
Oui, je trouve qu'alors, pas forcément, parce que une phrase, les phrases sont des respirations. Il y a des moments où on parle vite et des moments où on parle plus lentement. Donc on peut alterner aussi les deux. Mais moi, j'aimerais bien écrire comme Jean Dutour, comme Marcel Aimé, mais malheureusement, je ne suis ni l'un ni l'autre, ni Pierre Gripari. Voilà, bon, on est comme on est. Alors, c'est un peu une nouvelle sur le regret du père. Ou je l'ai mal lu. Je l'ai mal lu.
Le regret de père.
Oui, j'ai trouvé. Il y a quelque chose en moi du regret du père.
Dans la sauterelle,
oui.
Dans la sauterelle,
mais
il y avait
savez,
des amis.
Vous savez, je lis très attentivement les livres avant d'en parler. Mais alors, vous savez, en même temps, il faut que je vous confesse une chose, je suis un peu bête.
Disons qu'il avait choisi les prototypes selon son entourage. Il y avait son confrère, un médecin connu, célèbre, énormément. Le titre initial de cette nouvelle devait être consacré à ce grand médecin. Et normalement, le premier titre qui était donné à cette œuvre était « Un grand homme ». Et finalement, au fur et à mesure de son écriture de cette nouvelle, Tchekhov avait complètement changé son regard. Et donc, il a consacré cette nouvelle à la femme de ce médecin.
Oui, mais bon, enfin, écoutez, de toute façon...
C'est pour ça, la sauterelle, donc c'est comme...
De toute façon, vous devez lire les livres des éditions Natania. Vous allez sur le site internet édition Natania, au pluriel édition, évidemment, mais vous savez, les moteurs de recherche trouvent tout. Et donc, natania.com... Et à ce moment-là, vous aurez tous ces beaux livres, dont les trois derniers. Dites donc, il y a Jean T. qui vous appelle, là. C'est une bonne surprise d'entendre Madame Komarova. Et tout aussi réjouissant de l'entendre nous parler de la littérature de son grand pays. Eh oui, pour la bonne santé de sa maison d'édition,
merci,
s'il vous plaît,
beaucoup.
N'oubliez pas de mentionner ces trois ouvrages d'humour russe et soviétique, truffé d'esprit et de perles. L'ironie en version vocale chez autrui réservera beaucoup de surprises pour mesurer la distance entre les mentalités, mais aussi le rapprochement. L'humour russe soviétique est souvent savoureux. Merci, Monsieur Pocard, pour ce choix. Bah, avouez que c'est sympathique.
Merci beaucoup, merci, c'était inattendu, merci.
C'est formidable.
Merci.
Bon, alors, on va récapituler quand même. Donc, trois nouvelles des éditions Natania. On peut citer peut-être les illustratrices Elena Belikova, Irina Bak, et encore Irina Belikova et...
Belikova. Donc, Elena Belikova, elle avait illustré deux livres, La Sauterelle et Le Blanc Fronet. Irina Bach de l'Allemagne aussi, qui a illustré l'étudiant. Il y a aussi Anna Komarova et Hortense Dufour qui a illustré les trois nouvelles ironies d'Anton Tchekhov.
Et je voudrais aussi signaler la parution de l'excellente revue Livre Arbitre consacrée cette fois-ci à Roger Nimier et surtout pour moi au Diable en littérature qui est dirigé par Lucien Rabouille qui est également patron d'émission sur Radio Courtoisie. Vraiment, ça nous fait des belles choses à lire, mais allez sur le site des éditions natania.com. Merci Natalia. Bon, et puis la prochaine émission, ça sera le 28 février. Et on parlera encore littérature. Ça va en embêter certains, mais ça va faire plaisir à beaucoup d'autres.
Vous venez d'entendre le libre journal de la douceur de vivre dirigé par Alain Pocard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 31 janvier 2026 de 18h à 19h30.